Ok. Donc on va commencer Bezrat Hashem le cours. On va dédier le cours Leilou Nishmat Avraham Bar Myriam, Leilou Nishmat Aaron Avraham Mahlouf Shalom Ben Nejma. Non, pas Raphaël. Ben Nejma, parce que bon, ça part. Et pour la fois, je l'aime aussi de Ephraim Ben Nissi. Ok. Alors, comme vous savez, Rabotai, allez, c'est l'heure. Ceux qui étaient là la semaine dernière et la semaine d'avant savent que on a beaucoup parlé sur l'importance de la Simcha, page 12. On a beaucoup parlé sur l'importance de la Simcha, expliqué comment, même quand il y a des épreuves qui nous arrivent, Chazé Shalom, dans la vie, il faut quand même continuer à être Bessimcha. On avait amené, ça fait deux semaines, le texte de Arizal qui a dit que une des raisons pour lesquelles Akadosh Baruch Hu n'est pas content de nous, c'est parce qu'on fait les choses sans simcha. Ça veut dire qu'on peut être quelqu'un de très religieux, mais si on ne fait pas les choses, s'il vous plaît, Rabotai, si on ne fait pas les choses avec la simcha, Akadosh Baruch Hu n'est pas content. Maintenant, on avait terminé la semaine dernière en expliquant, on avait dit qu'il faut comprendre pourquoi les gens n'ont pas la joie. Qu'est-ce qui se passe, pourquoi les gens n'ont pas la joie? Alors, on avait expliqué qu'une des raisons pour lesquelles, la raison principale pour laquelle les gens n'ont pas la joie, c'est parce que ils ont des soucis dans Bané, Chayé ou Maisonné. Ils ont des soucis concernant, Dieu préserve, les enfants, concernant la santé, ou concernant, Rabotai, s'il vous plaît, alors j'attends le silence. Installez-vous. Prenez votre temps.
Nickel, de moi, voilà. Pour plusieurs même.
Pourquoi tu t'interromps? J'attends que tout le monde s'installe.
Il est bon, le verre.
Messieurs, on a déjà perdu des minutes précieuses.
Fais ta vie, s'arrête, je rentre là.
C'est bon. Alors, on était en train de dire que, on a expliqué la semaine dernière qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens peuvent être déprimés. Pourquoi une personne peut être déprimée? Il peut être déprimé soit parce qu'il a des problèmes par rapport aux enfants, soit parce que tu préserves, il a des problèmes par rapport à la santé, ou soit parce qu'il a des problèmes par rapport à la parnassa. On a expliqué qu'on avait deux approches. On avait l'approche de Nahum Ish Gamzo et l'approche de Rabbi Akiva. L'approche de Rabbi Akiva, c'est il te dit, tout est pour le bien. Vous rappelez l'histoire qu'on avait racontée la semaine dernière? Je peux pas revenir dessus, mais on avait raconté que tout est pour le bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il y a des fois des malheurs Chas V'Shalom qui arrivent, on se dit que c'est un mal pour un bien, mais ça reste un mal. C'est l'approche de Rabbi Akiva. L'approche de Nahum Ish Gamzo est beaucoup plus forte. C'est de dire que non seulement que le mal est pour un bien, mais le mal est carrément un bien. Vous vous rappelez avec l'histoire, on avait vu l'histoire avec la caisse de terre qui avait été transformée en caisse de pierres précieuses. Pour montrer que d'après l'approche de Nahum Ish Gamzo, qui était le maître de Rabbi Akiva, non seulement que c'est pas un mal pour un bien, mais carrément le mal est un bien. Alors comment c'est possible? Comment on peut dire que le mal est un bien? On a dit qu'on allait développer ça cette semaine, et la vérité, je m'attendais pas qu'entre-temps, il y a ce qui se passe, ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui est un événement dramatique dans le 13e, vous êtes certainement au courant, d'accord? Là, il y a un jeune homme de 14 ans qui, en l'espace de combien? En un mois?
Même pas un mois.
Voilà, un garçon qui est en bonne santé, rien du tout, il a un peu mal à la tête. Ce matin, il est parti. Ça veut dire ça, c'est une épreuve, on ne peut pas avoir une épreuve pire que ça. Même les médecins, ils étaient, je parlais tout à l'heure avec des gens de la famille, des amis, même les médecins, ils ont dit qu'arriver tellement vite, ils ne pensaient pas que ça arrivait tellement vite. Ça, c'est évidemment, c'est une épreuve. Donc on se pose la question, comment on peut être persuadé, se dire que Akadosh Baruch Hu est derrière tout ça, et que ça peut être que du bien. Pas seulement on n'a pas le choix, on va croire, ça peut être que du bien. Alors, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, ça c'est la vérité, mais on va essayer de quand même expliquer spirituellement comment ça fonctionne. Pourquoi il y a des choses qui ne s'expliquent pas? Je vais rappeler juste qu'on a terminé la semaine dernière, on a expliqué que dans le nom de Yud-Ké Vav-Ké, on peut le décomposer en deux. Il y a le mot Yud-Ké Vav-Ké quand il est tout ensemble, il y a le mot Yud-Ké Vav-Ké. D'accord? Yud-Ké Vav-Ké, c'est le tétragramme, le nom d'Akadosh Baruch Hu. Le Zohar, il dit comme ça. Il dit, c'est écrit, « Ashre agever asher teyaserenu ya » Heureux est l'homme que Yud-Ké va l'éprouver. Dit le Zohar, c'est quoi l'épreuve? L'épreuve, c'est quand la bracha d'Akadosh Baruch Hu, elle vient que en yudke. Elle ne vient pas avec le vavke qui est derrière. Quand la bracha, elle vient avec le vavke qui est derrière, Dieu, il t'envoie une bracha, et je vois de mes yeux comment c'est une bracha. Vav, le vav, ça veut dire ça descend. C'est comme l'ascenseur. Le vavke, et he, c'est le développement. C'est-à-dire que la bracha, elle descend vers moi, et dans le he d'en bas, on arrive à voir comment de mes yeux c'est une bracha. Mais quand Akadosh Baruch Hu ne nous donne pas le vav et le he, il ne nous laisse que le yud et le he, dans ce cas-là, le yud, c'est le point, d'accord? Le he, c'est le développement en haut. En haut, ils savent pourquoi c'est du bien. Mais nous, en bas, est-ce qu'on peut comprendre pourquoi c'est du bien? On est incapable de comprendre. Je voudrais illustrer ça avec une histoire. C'est pas vraiment le thème, mais je pense que c'est important de la raconter aujourd'hui. Une histoire qu'on raconte avec un des élèves du Ramban. Ramban, c'est Nachmanide. Il avait un de ses élèves qui était vraiment brillant, très brillant. Un génie, je crois même que c'est son meilleur élève. Et il n'était même pas marié. Et cet élève-là, pareil, il a contracté une maladie. Et en l'espace de quelques temps, il allait partir. C'était un choc pour le Ramban. Même Nachmanide, aussi grand qu'il était, c'était un choc. Il comprenait pas. C'est un super jeune homme, quelqu'un de très très bien. Quelqu'un qui allait devenir une grande pointure de l'âme Israël. On avait besoin des gens comme ça. Il n'a pas compris. Alors le Nachmanide, il a dit, écoute, il est parti voir cette personne-là. Il était sur son lit de mort. Il allait partir de ce monde. Il lui a dit, je vais te demander juste une chose. En reconnaissance pour tous les enseignements de Torah que je t'ai enseigné, je vais te demander que quand tu arrives en haut, tu demandes l'autorisation de revenir me voir pour m'expliquer pourquoi tu es parti. Est-ce que tu peux me faire ça? D'accord? Alors,
C'est bon.
Alors, le... Il l'a amené, oui. D'accord, donc Naramban, d'accord, donc il a dit ça, bien sûr. L'autre, qu'est-ce qu'il va dire? Non, son maître, il a dit ça. Bien sûr qu'il a dit oui. Il a dit oui. Et effectivement, quelques jours plus tard, l'élève vient en rêve à Nachmanide, tout souriant comme ça. Bien sûr, j'attends la réponse. Il lui dit, je t'ai promis de revenir, je suis revenu. J'ai demandé la permission. Comme c'est pour toi en général, on ne donne pas la permission comme ça. Mais comme c'est pour toi, on me l'a donné, je suis revenu. Il lui dit, je peux juste te dire une chose. T'expliquer, je ne peux pas t'expliquer. Mais ce que je peux te dire, c'est que quand on arrive en haut, tout devient clair à tel point qu'il n'y a même plus de questions qui démarrent. Comme ça, il lui a dit. À tel point qu'il n'y a même plus de questions qui démarrent. C'est comme si on allume la lumière. Tu vois, t'allumes, tu dis, mais il n'y a pas de questions. Mais, qu'est-ce qu'il lui a dit? Je ne peux pas t'expliquer. Ça veut dire que quand on est ici-bas dans le monde, quand Dieu il envoie une bracha, mais que c'est en mode yudke, c'est bloqué. Les humains sont incapables de comprendre. Ils voient ça comme une épreuve, ils voient ça comme une claque, ils voient ça comme ce que vous voulez. Et on est incapable de comprendre. Ce qu'il faut se dire, c'est que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, et c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Maintenant, on s'est arrêté sur une question la semaine dernière, qui d'ailleurs qui avait dérangé beaucoup Michael. On avait dit qu'on voit dans la Gemara que... Alors, vous vous rappelez, on avait vu l'histoire avec celui qui avait dansé quand il avait reçu la mauvaise nouvelle, etc. Bon. Et on avait dit que la Gemara nous dit, ça veut dire quoi quand on dit que de la même manière qu'on doit remercier Dieu pour une bonne nouvelle, il faut remercier Dieu pour une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'avait dit la Gemara? C'était le kaboulé besimcha. Ça veut dire qu'il faut l'accepter avec joie. Et on s'était arrêté sur ça la semaine dernière, à savoir comment il est possible de dire qu'on va accepter une mauvaise nouvelle avec joie. À la limite, tu me dis, c'est Dieu qui gère, il n'y a pas de problème. Tu me dis, un jour tu comprendras, ok, il n'y a pas de problème, j'ai la Emouna. Qui n'a pas la Emouna? Tout le monde a la Emouna. Dans des moments comme ça, quand Dieu il envoie une épreuve, il envoie l'antidote qui va avec. Il envoie la Emouna qui va avec, ça n'y a pas de problème. Mais tu vas me demander d'être joyeux? Joyeux de ce qui s'est passé? Quoi? C'est-à-dire, tu vas me demander de dire merci à Hachem pour ce qui s'est passé? D'être Bessimra? Quel Bessimra? Où Bessimra? Comment c'est possible? Pourtant, la Gemara le dit clairement. Elle dit, les Kaboulés, Bessimra, il faut l'accepter avec joie. Comment c'est possible? D'ailleurs, il y a plusieurs endroits dans la Gemara où on nous parle des gens qui sont smérim beyissourim. Des gens qui sont joyeux de leurs épreuves. Comment on peut être joyeux d'une épreuve? Vous comprenez ça?
Non.
Pour l'instant, on ne comprend pas. C'est impossible. Il faut être fou pour être joyeux d'une épreuve. Alors, de deux choses l'une. Soit je ne sais pas ce que c'est la joie, soit je n'ai pas réalisé qu'il y a une épreuve. Mais si j'ai réalisé qu'il y a une épreuve, et que bien sûr je perçois ça comme une épreuve, est-ce qu'il est possible de besimra? C'est impossible. Comment ça marche? C'est pas possible, il faut être fou pour ça, c'est pas possible. Alors on va essayer de développer. On est à la page 12, on s'est arrêté ici la semaine dernière. Et la reine, Amrou, en bas de la page 12, et la reine, Amrou, Rabotunazu, Chonam, Livracha. Voilà pourquoi nos Chachamim, nos maîtres, ont dit, de mémoire bénie, qui asmechim beisourim, que ceux qui se réjouissent dans l'affliction, ceux qui se réjouissent dans une épreuve, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si, ça veut dire que, ça veut dire quoi qu'ils se réjouissent dans l'épreuve? Ça veut dire que dès qu'ils ont une épreuve qui leur arrive, Chas v'Shalom, ils sont contents. Ça veut dire quoi? Ils sont contents. Ils sont prêts à la supporter. Ils sont prêts à mettre de côté le bien matériel. Parce qu'ils savent que dans cette souffrance, il y a un vrai bien. Alors, on va expliquer. Aleem akatuv omer, sur eux, la Torah dit, ve'ohavav ketzet ha-shemesh bigvurato. La Gemara dit une phrase très forte. Elle dit, celui qui est joyeux de ses épreuves, sur lui, Dieu dit, ceux que j'aime, je les aime comme le soleil sort en toute puissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu les aime très fort. Comment on peut dire qu'on aime une épreuve? On va essayer d'expliquer. On va essayer de comprendre ce qu'on peut. Qui? Asimcha i me ahavat kirvat Hashem yoter mikol chaye olamase. Quand une personne arrive à être besimcha après une épreuve, ça veut dire qu'il est en train de prouver à Kadosh Baruch Hu que la relation qu'il a avec Kadosh Baruch Hu est une relation qui dépasse de très loin le côté physique. C'est pas une relation qui dépend quand tout va bien. Quand tout va bien, c'est facile à aimer Akadosh Baruch Hu. Mais quand j'arrive à aimer Akadosh Baruch Hu, même quand les choses vont mal, même quand c'est une épreuve, là, ça veut dire que j'ai réussi à trouver en moi un niveau extraordinaire d'attachement avec Akadosh Baruch Hu, un attachement qui est inconditionnel. Et ça, c'est quelque chose que si l'épreuve n'était pas venue, jamais je l'aurais eu. Est-ce que ça veut dire que l'épreuve est venue pour ça? Chas v'shalom. Ça, toujours le rabbi disait, on n'est pas les comptables du bon Dieu. Vous savez, quand il y avait la Shoah qui s'était passée, les gens, ils commençaient à dire oui, ça s'est passé parce qu'ils sont assimilés, parce que si, parce que ça, c'est des bêtises. Des bêtises, tout ça. Le rabbi a dit, la Shoah, ça sera Dieu en personne qui devra venir nous l'expliquer. Voilà, clair. Vous savez, on ne peut pas commencer à rentrer dans les calculs. T'inquiète pas. Et alors, un croyant peut rester avec des questions. Il essaie de comprendre, mais il peut rester avec des questions. Il y a des choses qui sont incompréhensibles. Seulement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que sans forcément chercher à comprendre l'épreuve, ce qu'on sait, c'est que quand une personne passe par une épreuve, il peut réussir à développer un attachement avec Akadosh Baruch Hu qui est extraordinaire. Je vous donne un exemple. Imaginez par exemple deux personnes qui se marient. Un homme, une femme. D'accord? Ils se marient, tout va bien. Baruch Hashem. Tout va bien, ils s'aiment, etc. Ils sont contents. Mazal Tov. Au bout de quelques mois ou quelques années, ils vont s'accrocher très très fort. Et ils vont quand même rester mariés. Là, on va dire, le fait qu'ils vont quand même rester mariés et qu'ils vont faire des efforts pour maintenir leur couple alors que ça ne va pas du tout, c'est là qu'on va dire que ça va prouver qu'en vérité, leur couple est très très fort. Nous, on croit, comme les gens ils voient dans les films, que c'est quoi un bon couple? C'est un couple dans lequel ils vivent toute leur vie, heureux, sans disputer, sans histoire et pas de problème. Ça, on te dit, c'est faux ça. Parce que pourquoi c'est faux? Parce que ça veut dire que pourquoi ils s'aiment? Parce que tout va bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que ça va mal, il s'aime plus. Ça veut dire pourquoi il s'aime en vérité? Il s'aime parce que ça va bien. Il n'aime pas la personne profondément. Il aime parce que ça va bien. À quel moment on peut dire qu'on aime vraiment une personne? C'est quand on arrive à rester attaché à la personne, même lorsque les choses vont mal, même lorsque les choses vont très mal. Alors vous pouvez appliquer ça par rapport à votre femme, par rapport à vos enfants. C'est facile d'aimer un enfant qui se comporte bien. D'accord? Mais quand tu arrives à continuer à l'aimer et à s'occuper de lui et à faire tout ce qu'il faut, même quand il va mal, c'est là qu'on montre qu'en vérité, t'as un attachement qui est au-delà d'avoir des bonnes notes. T'es pas mon fils parce que t'as des bonnes notes. T'es mon fils parce que t'es mon fils. Etc, etc, etc. On peut appliquer ça, dans tous les domaines de la vie. Et ça, c'est la notion pourquoi une personne peut être joyeux d'une épreuve. C'est pas qu'il est joyeux de l'épreuve. C'est qu'il est conscient qu'au travers de l'épreuve, Akadosh Baruch Hu est en train de l'élever à un niveau qui est beaucoup plus fort. Akadosh Baruch Hu est en train de lui donner une occasion de développer des forces en lui qu'il ne savait même pas qu'il avait. Et ça, je pense qu'autour de la table ici, toute personne qui est déjà passée par une épreuve et qui a réussi à la surmonter peut, je suis sûr, il peut certifier, chacun, enfin voilà, il peut certifier à quel point on voit que quand on a réussi à surmonter une épreuve, on sent qu'on a découvert en soi. Ça veut dire ne pas sombrer dans la déprime. Oui, c'est ça la joie. La joie, ça veut dire réussir à la surmonter et continuer à avancer. Tu prends une claque, tu continues à avancer. Tu trouves en toi des forces extraordinaires. Eh ben, on peut dire que après coup, on dit pas qu'on va justifier ce qui s'est passé. Ça, c'est Dieu qui va se dérouiller. Mais on peut dire qu'on a découvert des forces qu'on avait en soi, qu'on se doutait même pas qu'on avait des forces tellement extraordinaires en soi. Et combien de fois ça arrive comme ça dans la vie? Alors justement, parce qu'encore une fois, on a peut-être une mauvaise définition de la joie. On va expliquer. La joie, déjà, c'est quoi? C'est intérieurement, je me dis que certainement que Dieu veut mon bien. Dieu, il veut que je trouve quelque chose de plus fort en moi. Alors évidemment, ça c'est facile à dire pour les petites choses de la vie. Du style, bon, le gars, il avait un boulot, il a perdu son boulot, il en a trouvé un autre. Bon, d'accord, c'est facile de dire. Dieu, il veut me montrer qu'en vérité, je suis un grand patron. Pas de problème, d'accord? Quand c'est des choses comme ce qui s'est passé aujourd'hui, bien sûr, c'est compliqué. Vous comprenez ? Mais ce sont des petites choses de la vie, c'est facile à solutionner. Ce sont de grandes choses, c'est très compliqué. Mais la vérité, personne ne peut parler à la place de la famille. Chaque personne à qui Dieu envoie une épreuve, avant d'envoyer l'épreuve, à cada jour, il envoie la force de surmonter l'épreuve. Et ça, je peux vous dire, je l'ai vu des dizaines de fois dans ma vie. Parce que bon, malheureusement, on côtoie souvent comme ça des gens qui passent par la mort, qui passent par des choses comme ça. Des gens que je croyais connaître, que je croyais qu'ils étaient limités, je peux vous dire que quand ils sont passés par une épreuve, à envier les forces qu'ils avaient. Comment ils se reprennent, et comment ils sont forts, et comment ils sont tenaces. Parce que Akadosh Baruch Hu, il sait à qui il envoie les épreuves. Et en vérité, c'est un peu ça ce qu'on est en train de dire. Akadosh Baruch Hu n'envoie pas une épreuve à un petit joueur. Alors, Alvaï, qu'on soit tous des petits joueurs. On se le souhaite. On n'a pas besoin d'être de gros joueurs. Mais sachez qu'une personne à qui Dieu envoie une épreuve, c'est que c'est une personne qui a la capacité de le surmonter.
Les gens faibles aussi ont des épreuves. C'est pas que les
gens... Qu'est-ce que t'appelles gens faibles ? C'est qu'ils ont pas d'argent ?
Dans la déprime.
Mais ça, c'est... Parce qu'il a décidé de tomber dans la déprime. Toute personne à qui Dieu envoie une épreuve, c'est parce qu'il a en lui la capacité de surélever, il a en lui des capacités extraordinaires. Oui ?
Mais quand vous dites ça, surmonter une épreuve, ça veut dire on passe par la déprime quand même, ou gérer quand même, elle doit être joyeuse.
C'est moi qui décide. Si quand, quand l'épreuve arrive à monsieur X, d'accord, il décide de tomber dans la déprime, il tombe dans la déprime. S'il décide de ne pas sombrer dans la déprime, peut-être d'être triste, il peut être triste de ce qui s'est passé, mais de ne pas sombrer dans la déprime, de dire « Ouais, Dieu il m'a abandonné, et j'en ai marre, je suis religieux, et avec ça, regarde comment Dieu m'a laissé en plan, et comment c'est possible, et les rabbins m'ont promis, voilà ce qui s'est passé. » Il y a toutes les raisons possibles de tomber. Il y a beaucoup de situations dans la vie comme ça. Et pourtant,
souvent, les gens disent
celui qui a la émouna, c'est celui qui a la force de venir... Et de dire, Dieu, il sait ce qu'il fait. Je ne sais pas si vous avez vu, moi, je me rappelle toujours comme c'est des choses qui m'ont marqué. Comme par exemple, ce qui s'est passé quand il y avait eu les trois, d'accord, quand il y avait les trois jeunes qui avaient été assassinés l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette levaya extraordinaire qui s'est passée. Le discours des mamans, le discours des papas.
Ouais.
Comment, qu'est-ce qui ressortait ? Je ne sais pas si c'était sous-titré en français, etc. Une force extraordinaire. Comment une personne peut te regarder droit dans les yeux et il peut te dire, Dieu, il sait ce qu'il fait, Hachem Nathan, Hachem Lakar, que Dieu soit béni. Comment t'arrives à parler comme ça ? Regardez aussi par exemple Madame Braham, qui a perdu son mari, Philippe Braham. Regardez par exemple aussi celui qui, comment il s'appelle, Monsieur Khatab, d'accord ? Khatab, qui a perdu aussi son fils. Tout cela, on les a vus, c'était filmé, pour revoir les vidéos. Allez sur Internet, regardez les vidéos. Regardez la force qu'ils ont ces gens-là. D'accord ?
On les voit en public pendant le
évidemment, discours, c'est sûr, chambre, c'est sûr, c'est sûr, mais, c'est, mais personne n'a dit qu'ils pleurent pas, personne n'a dit qu'ils pleurent pas, mais évidemment, évidemment, évidemment qu'ils ont leur moment de déprime, d'accord.
Alors c'est quoi la joie du cinéma ?
Pas du tout.
Alors, excuse-moi.
Ça
veut dire quoi accepter
non, ça veut dire, ils ont leur moment de tristesse, ils ont leur moment dans lequel ils sont déprimés.
Parce que la plupart du temps ils sont en tristesse, et quand ils...
Oui, mais, ils sont en tristesse, tu as raison, mais tu sens une puissance.
Mais ils étaient pas joyeux.
Tu sens une puissance. Non. On a peut-être la mauvaise définition de la joie. Tu sens une puissance. Tu sens que Dieu leur a donné les forces de surmonter. C'est pas parce que seulement parce qu'ils ont pris des calmants et qu'ils n'ont pas le choix. D'accord ? Ils surmontent dans le sens que ils veulent avancer même si c'est difficile. On le voit clairement. Et d'ailleurs,
le discours du père n'était pas.
Je peux vous dire par exemple, bon, j'ai suivi ça de près aussi, par exemple, dans l'histoire de Braham, etc. C'est pas des gens qui étaient comme ça que pour les levayas. C'est des gens qui, encore 3, 4, 5 mois, 6 mois plus tard, ils continuent avec cette même résignation, avec cette même force, avec cette même puissance. Alors, certes, ils sont très tristes, exactement, Madame Sandler, d'accord, qui a perdu son mari, ses enfants, Léa Shalom. Alors, encore, elle a un collège, elle s'en occupe, elle fait un gala chaque année. Des choses extraordinaires. C'était une dame qui était comme tout le monde. Ça veut dire quoi ? Est-ce qu'elle n'est pas triste quand elle rentre chez elle à la maison ? Bien sûr qu'elle est triste. Évidemment qu'elle est triste. Qui ne serait pas triste ? Mais c'est des gens qui ont réussi, qui ont montré qu'on peut réussir à surmonter une épreuve. Pas surmonter dans le sens faire comme si qu'elle n'était pas là, mais montrer qu'on peut retrouver en soi des forces qu'on se doutait même pas qu'on avait. Ça, c'est le chat.
Ils n'auront plus jamais la joie. Ces gens-là, à mon avis, la joie...
Qu'est-ce qu'on appelle la joie ?
Le sentiment d'être joyeux.
C'est quoi la joie ?
Être heureux, être content.
Ah, attendez, attention.
Il faut définir.
Mais vous donnez trois mots, là. Joie, heureux, content. Pourquoi il y a trois mots en français ?
Parce qu'il y a trois significations.
Parce qu'il y a trois significations. Joie, content, heureux. Pourquoi trois mots ?
Alors, que ça veut dire la joie ?
On va expliquer. On explique. Mais déjà, on a compris un premier aspect. On a compris un premier aspect, que quand Dieu envoie une épreuve à une personne, il lui donne la force de surmonter cette épreuve. Et ça, on l'a vu autour de nous.
Joie, content.
J'ai pas expliqué à jouer encore.
Non, mais joie, content et quoi ?
Heureux.
Content, heureux.
C'est la même chose.
Ah, pas du tout. Ah, non.
C'est quoi ? Simcha, quoi encore ?
Juste prends par exemple dans les bénédictions du mariage. Il y a 10 termes pour parler de la joie. 10 termes.
Simcha, ouais.
Et il n'y a pas de synonyme. Quand il y a un synonyme, c'est que c'est des termes, c'est que c'est des sens différents. Il n'y a pas de répétition.
En même temps, c'est quoi le calcul de Dieu ?
Ça, c'est pas mon problème.
Non, mais.
Ça, regarde, tu vois. Alors, ça, tu vois. Ça, c'est le piège à ne pas tomber quand on passe par une épreuve.
C'est-à-dire que finalement.
Mais ça, voilà, je te dis. Ça, c'est le piège à ne pas tomber. Parce que ça, si tu veux, les gens, ils vont dire, oui, tu sais, je t'expliquais, c'est un gilgoul, un truc comme ça.
Non.
Ça, c'est zéro, ça.
C'est-à-dire, finalement, c'est que l'attente, quand tu dis ça, c'est que, comme tu dis, là-haut, tu as cité l'histoire.
Oui.
Du Ramban.
On peut pas comprendre.
Du Ramban.
On n'est pas équipé. On pense que forcément, comme on l'a étudié dans nos cours, qu'il ne peut pas y avoir de mal qui arrive de Dieu. Ça, c'est,
voilà.
C'est le
ça,
principe
c'est
de base.
Oui.
Bon, en même temps, pour ceux qui vivent effectivement les épreuves, tu dis que quand les épreuves arrivent, c'est que quelque part, Dieu donne en même temps la force aux
personnes de surmonter.
De surmonter. En même temps, c'est quoi finalement la finalité ? C'est l'épreuve, elle est pour ceux qui sont là, c'est pour celui qui passe l'épreuve, des fois. Des fois, c'est lui qui supporte l'épreuve, la personne, et fait, enfin, il passe l'épreuve aussi à son entourage. Finalement, quelque part, tout ça, c'est qu'il attend une élévation des gens.
À quoi elle sert l'épreuve ? Ça, on n'en sait rien. Mais par contre, avoir la capacité de la surmonter et de développer en soi des forces extraordinaires, ça, on le sait. Ça, c'est sûr qu'il y a. Ça, c'est sûr. Et on l'a vu plusieurs fois de nos yeux. De nos yeux, on l'a vu plusieurs fois, ça. On l'a vu en Israël, on l'a vu en France, on l'a vu en diaspora, on l'a vu partout. Cette notion que les gens prenaient, par exemple, après la Shoah. Alors, il y a eu les deux. On ne peut pas les juger. Il y en a qui sont sombrés dans la déprime, il y en a qui sont suicidés, chassés shalom. Il y en a beaucoup, d'accord ? Et il y en a qui ont une force extraordinaire, qui se sont reconstruits. On peut pas comprendre. Dieu fasse qu'on soit jamais touché par ça. Mais comme Michael a posé la question, il a dit on n'a toujours pas expliqué pourquoi il est joyeux.
Non, voilà. Pourquoi il est joyeux ? C'est quoi la joie ?
C'est quoi la joie, exactement ? Alors, on continue.
Où est-ce qu'on met la limite avec le fanatisme ?
Il n'y a pas de fanatisme, on n'a pas décidé l'épreuve.
Le fait de dire j'accepte parce que c'est Dieu qui a voulu, c'est un peu fanatique.
Est-ce que tu es d'accord qu'une épreuve vient d'Akadosh Baruch Hu ? D'accord. Est-ce que tu es d'accord que Dieu n'envoie que du bien ? Enra Yored Melag Maral dit clairement, il n'y a pas de mal qui vient d'Akadosh Baruch Hu. On est d'accord ? T'as une raison que t'as expliqué pourquoi un gosse de 14 ans il part ?
Aucune raison.
Alors, pourquoi il est parti ?
Je sais pas.
D'accord.
C'est une catastrophe.
Dieu il sait pas ce qu'il fait ? C'est un raté ? Il y a eu un raté ? Sur des milliards de cas, il y a un raté. Bah, ça laisse mal passer ? Chas v'shalom. Alors ?
Ouais, mais c'est une notion très difficile à chez
lui, il est bien. Ça, ce qu'il faut être sûr, c'est que lui, il est bien.
Ça, c'est du courage de crâne.
Que quoi ?
Lui, il est bien. Tu sais pas comment il est, lui.
Lui, il est bien. C'est sûr que lui, il est bien.
Tu sais pas.
Non, attendez. Quand il y a une épreuve, il faut pas. Lui, celui qui est parti, il est bien.
Tu sais pas.
C'est évident qu'il est bien.
Tu sais.
Moi, je te dis qu'il est bien.
Ça peut être bien.
Ça s'appelle du lavage.
Il peut être que bien.
Non.
C'est un tzaddique.
Non.
Quoi, non ?
Je pense pas du tout.
Qu'est-ce que tu penses ?
C'est dur.
Qu'il soit bien ?
Le gosse ?
Oui.
Bien sûr qu'il est bien.
Comment il peut pas être
il est très bien.
On ne peut pas.
Comme le jeune de l'histoire de Narmanid, il était souriant.
On ne peut pas.
Mais bien sûr qu'il est bien lui. C'est nous qui allons pas bien, parce que nous on comprend pas. C'est évident qu'il est bien. On va continuer un petit peu, on va donner quelques versets.
T'es d'accord avec moi que partir jeune, c'est pas normal.
Non, c'est pas,
non, c'est pas normal.
C'est pas normal,
c'est normal que les parents enterrent leurs enfants. C'est sûr
chose
ça.
Qui ne va pas.
Bien sûr.
Donc on peut pas être bien.
C'est pas que ça ne va pas.
C'est quoi,
c'est que ça n'est pas dans la normalité des choses.
Donc ça va pas.
Non.
Je vous crois à créer un monde à qui t'éva, on
voilà.
70, 80 ans.
Donc, si tu meurs avant donc naturellement chose, parlant, c'est incompréhensible.
C'est autre chose.
Donc naturellement parlant, c'est incompréhensible.
Oui.
Non, c'est compréhensible.
Non, c'est incompréhensible. Donc naturellement parlant, c'est incompréhensible.
Le cycle n'est pas terminé, quoi.
Donc voilà. Maintenant, Akadosh Baruch Hu.
Et c'est ça qui cause au fait le désespoir.
Évidemment.
Qu'on sache que ça va pas.
Alors c'est quoi la force maintenant d'une personne qui m'en va donner des psukim encore ? Faut aller dans
les. Mais ça, le fait de dire lui il va bien tout c'est
non c'est oublie lui c'est oublie bien. lui il va bien, c'est pas de lui qu'on s'occupe, on s'occupe de celui qui souffre maintenant. Lui il va très bien, moi je te dis t'occupe pas de lui, faut s'occuper de la personne qui souffre maintenant qui est ici dans ce monde. Ceux qui sont en haut ils vont très très bien, d'accord, il est très très bien, d'accord, et il va beaucoup mieux que nous on souffre parce qu'on comprend pas, c'est évident qu'il va bien. Lui il est passé de l'autre côté, c'est fini, il voit tout, il la comprend. Nous de notre côté on voit pas. Comme on voit pas, c'est pour ça qu'on comprend pas, on n'est pas bien. Alors, on va pas te dire que tu vas tout comprendre, c'est pas notre but. Ce qu'on veut t'expliquer, c'est que Akadosh Baruch Hu, quand il envoie une personne à une épreuve à une personne, il lui donne la force d'avoir des forces, de trouver les forces en soi pour dépasser l'épreuve et continuer malgré l'épreuve. Mais on va donner encore 2-3 versets, après on fera une pause pour les questions. On continue. Que dire-t-il ? On va juste avancer un petit peu, d'accord ? S'il vous plaît, on va avancer un petit peu. Quelques lignes, 2 secondes. Alors, excuse-moi, 2 secondes. Mechila. Alors, Vekirvat Hashem. Excuse-moi, Avner, 2 secondes. Parce qu'il y a des versets intéressants. Il y a des versets importants qu'il faut que je cite.
C'est juste pour dire qu'il raconte une histoire. L'histoire du.
D'accord, ok.
Il a raconté
l'histoire.
D'accord. Non, parce que je t'explique, parce qu'il y a des éléments qu'il va rajouter ici qui peuvent répondre à plusieurs questions. C'est pour ça que je préfère les dire tout de suite. Alors, ve kirvat Hashem ibeyeter seet ou maala. Donc, je suis à la page.
13.
À la page 13, en bas de la page. Donc, d'où vient la joie ? D'où vient cette joie ? Cette joie, elle vient parce que il se dit que Akadosh Baruch Hu l'aime très fort. Et Akadosh Baruch Hu est très proche de lui. À un niveau qui est très très fort. Mais Alma Deid Gassia. Seulement, ça vient d'un monde qui est caché. Rappelez-vous ce que j'ai dit la semaine dernière. Il y a des choses qui sont dans le monde dévoilé. Il y a des choses qui sont dans le monde caché. C'est quoi le monde caché ? C'est comme ce qui est sous la mer, c'est ce qu'on voit pas. Revion, Kisham, Revion, Uzo. C'est là-bas que Akadosh Baruch Hu, que la puissance d'Akadosh Baruch Hu se cache. Ve-Yoshev, Ve-Seter, Elion. Qu'est-ce qu'on dit quand une personne part de ce monde ? Yoshev, Ve-Seter, Elion. Traduisons ce verset. Yoshev, Ve-Seter, Elion. Dieu est assis dans la cachette. Elion en haut. Ça veut dire quoi dans la cachette ? Ça veut dire que pour nous, ce qui se passe en haut, c'est une cachette. On comprend pas ce qui se passe. Mais on est sûr que ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, il sait exactement ce qu'il est en train de faire. Sauf que, on n'a toujours pas répondu à notre question. Sauf, finalement, pourquoi être Bessimra ? Tu me dis que c'est Dieu qui gère, pas de problème. Tu me dis que j'ai la Emouna, que c'est pour mon bien. Ok, j'ai la Emouna, y a pas de problème, j'y crois, d'accord. Tu me dis que lui va bien et que moi je fais un effort pour trouver des forces en moi pour continuer à avancer. D'accord, je prends, j'achète. Mais tu me dis que je suis Bessimra ? C'est pas chez nous ça. Depuis quand on est Bessimra ? Il va expliquer ? Alors, je vous donne un exemple. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il dit ici ? Le Zohar, il dit quelque chose de très très fort. Il dit des fois, la lumière est tellement forte, d'accord, que ça t'obscurcit. Je vous donne un exemple. Prenez par exemple, d'accord, là, le néon. Est-ce qu'il vous éclaire ? Est-ce qu'il nous éclaire ? Oui, pourquoi il nous éclaire ? Parce que c'est une lumière qui est modérée. Prenez maintenant un lampadaire et mettez-le devant vos yeux. Qu'est-ce que vous allez voir ? Qu'est-ce que vous allez voir avec vos yeux ? Ouvrez vos yeux, qu'est-ce que vous allez voir ? Vous allez voir quoi ?
Du blanc.
Non ? Du noir. Pourtant, c'est une grande lumière. Comment c'est possible ? Comment ça marche ? Parce que c'est ce que te dit le Zohar. Zohar te dit que la lumière est tellement forte que la lumière aveugle. Mais ça répond pas à notre question. Imaginez que voilà, il y a une personne qui a besoin de lumière. On lui dit, au lieu de donner une petite lumière qui va t'éclairer, je vais te donner une grande lumière qui va t'obscurcir. Qu'est-ce que je dis moi ? Qu'est-ce que j'ai envie de prendre ? Qu'est-ce que je réponds ? Donne-moi une petite lumière. J'ai pas besoin de ta grande lumière. Dis oui, mais tu sais, en vérité, c'est une très très grande lumière et c'est pour ton bien, tu comprendras que c'est une grande lumière. Écoute, je veux pas de ta grande lumière, moi. Laisse-moi tranquille avec ces histoires. Moi, j'ai une petite lumière, tranquille, qui m'éclaire, que je vois. Prends pas la tête, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que t'as besoin de rentrer dedans ? Tu veux que je sois Bessimra en plus ? Tu m'as vu que je veux que je sois Bessimra ? Dis oui, mais en vérité, c'est un super lampadaire qui est en vérité une grande lumière. D'accord, pas de problème, je te crois. Mais je suis pas joyeux. Comment tu peux dire qu'on est Bessimra ? Une personne dit, moi, je préfère recevoir ce que j'ai. Ce que je peux recevoir, pas plus. Alors en vérité, la réponse est la suivante. D'accord ? La réponse est la suivante. C'est que il y a deux façons, on explique au Kabbalah, hein, et ça on va développer des rattachements longuement, qu'il y a deux façons comment un élève peut apprendre d'un maître. Première façon, c'est quand l'élève emmagasine une information, une deuxième, une troisième, une quatrième, etc. D'accord ? Alors évidemment, quand l'élève est dans un mode comme ça, qu'il emmagasine et il comprend ce qu'il emmagasine, dès qu'à un moment le maître dit quelque chose que l'élève ne comprend pas, qu'est-ce que va dire l'élève ? Il pose des questions, il va dire stop, j'ai pas compris. D'accord ? Mais il y a une deuxième façon. C'est quoi ? C'est une situation dans laquelle tu peux apprendre, mais que t'es pas là pour comprendre. T'es là pour chercher à comprendre ce que tu peux capter. Je vous donne un exemple. Imaginez qu'on vous donne la possibilité, on te dit ce soir, tu viens avec moi, à minuit, je te fais rentrer dans une pièce, tu vas écouter le Baal Shem Tov en train d'étudier avec Eliyahu HaNavi. Vous venez avec moi ou pas ? D'accord. Est-ce qu'on va comprendre quelque chose qui se passe là-bas?
Non.
Est-ce qu'on va sortir pour autant?
Non.
Pourquoi?
On ne comprendrait pas.
Hein?
On comprendra.
D'accord.
Allez,
chaud, n'importe quoi. Est-ce qu'on va comprendre les secrets qu'ils sont en train de parler? Évidemment que non. D'accord. Évidemment qu'on ne va pas comprendre. D'accord. Maintenant, est-ce que pour autant on va sortir?
Non.
Pourquoi on ne va pas sortir?
Parce qu'on est attiré.
Parce que je ne suis pas venu pour comprendre.
Parce que c'est exceptionnel.
Je ne suis pas venu pour comprendre. Je suis venu pour vivre l'événement. Et ça, c'est la même chose. Quand une personne passe par une épreuve, il passe en mode 2. Nous, quand Baruch HaShem, on passe pas par une épreuve, on est en mode 1. Tout ce qui se passe dans notre vie, on est comme un élève qui veut tout comprendre. Et quand tu comprends pas, il dit yeah, « stop, j'ai pas compris ». Quand une personne passe par une épreuve, il passe en mode 2. Ça veut dire il comprend qu'il y a des choses qu'il ne comprendra pas dans sa vie. Et il comprend que ça sert à rien de chercher à les comprendre parce qu'il ne les comprendra pas. Et il perd pas du temps pour ça. C'est une perte de temps. Il comprend qu'il y a une perte de temps, que maintenant, ce qu'il faut faire, c'est essayer d'utiliser au maximum les outils qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnés pour essayer de développer et pour essayer d'être Bessimcha dans ce que Dieu lui a donné. Comment on peut être Bessimcha dans ce que Dieu m'a donné? C'est quand j'arrive à faire abstraction du problème. Pas que j'oublie ce qui s'est passé. Quand je me dis que de toutes les façons, ce qui s'est passé, je ne le comprendrai jamais. Qu'est-ce qui enlève la simcha d'une personne? Ce qui enlève la joie de vivre d'une personne, c'est quand il cherche à comprendre. Quand il arrête de chercher à comprendre, il peut retrouver, pas la personne qu'il a perdue, ça il ne la retrouvera pas, mais il peut retrouver la joie de vivre dans le sens « essayons maintenant de vivre avec ce qu'on a. Essayons de développer avec ce qu'on a et essayons d'avancer avec ce qu'on a. » Et ça, c'est une qualité extraordinaire que Akadosh Baruch Hu a donnée qu'à certaines personnes. Et ces gens-là, Dieu leur donne des épreuves pour les aider à développer ce niveau 2 qu'ils ont en eux. Parce que ce niveau 2, celui qui est incapable de surmonter une épreuve, il est incapable de surmonter, de passer à ce niveau 2. Et donc c'est pour ça, il te dit...
Celui qui est à niveau 2, comment il fait Tchouva?
Celui qui est quoi?
Celui qui est à niveau 2, comment il fait Tchouva?
C'est quoi Tchouva? Tchouva de quoi?
Tchouva, en fait Tchouva quand tu nous arrives des épreuves, souvent. Mais si l'épreuve, de toute façon, c'est la Simcha.
Il y a des choses, il y a des choses. C'est pas la Simcha, c'est pas la Simcha.
En tout cas, il faut se dire que c'est...
On a l'impression que celui qui subit l'épreuve, il est déjà au-dessus de celui qui n'a pas d'épreuve.
Il y a des choses que c'est tellement gros, c'est tellement gros...
Il y a des grands Tanaïm que lorsque le Beth Amidrash a été détruit, ils ont pu manger de viande toute leur vie.
Oui, exactement.
Complètement toute leur vie.
Bonne question.
C'était pas la mazorka du Baal Shem Tov.
C'est une très bonne question. Alors on va continuer.
C'est terrible. C'est terrible.
Toute personne à qui, je répète, toute personne à qui Akadosh Baruch Hu envoie une épreuve, c'est que forcément, il lui envoie la possibilité de surmonter cette épreuve.
On peut lui donner
c'est une obligation.
Je veux ou je veux pas.
Non, ça on lui donne pas le choix. On lui donne pas le choix. Il a pas le choix. Qui a le choix? On a. Est-ce qu'on maîtrise quelque chose dans ce monde? On maîtrise rien du tout dans ce monde. On maîtrise rien. Mais toute personne à qui Akadosh Baruch Hu lui envoie une épreuve, Akadosh Baruch Hu, il lui envoie également la force de le surmonter.
Mais c'est pas seulement l'épreuve d'un malheur. Ça peut être aussi l'épreuve par rapport à une épreuve que tu as du mal à faire.
Ça peut être ça aussi.
Mais là, on a un niveau quand même.
Non, mais c'est la même, là, on
mais c'est la même chose. Niveau, alors, mais seulement.
On est à un niveau.
J'ai compris. De... Alors, Rabotai, il faut juste qu'on reste focalisé. Parce qu'on a expliqué, là, on est en train d'analyser plusieurs éléments qui peuvent enlever la simcha d'une personne. Et on essaie d'expliquer comment les repousser. Donc, toi, tu parles d'un autre problème. Une personne qui est déprimée parce qu'il n'arrive pas à faire une mitzvah. Une personne qui est déprimée de ses avérotes. Une personne qui est déprimée comme ça.
C'est un niveau.
Ça, on verra plus tard. Non, mais ça, on verra plus tard. Parce que ça s'appelle être déprimé de Avodat Hashem. Ça, c'est autre chose. C'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui.
On est tout perdu.
Aujourd'hui, on parle d'une déprime qui est liée aux choses matérielles. Éventuellement. Une déprime éventuelle. À propos de banné, raillé ou maisonné. À propos de la santé, d'accord? Donc les enfants, la santé et la parnassa. Qu'est-ce qu'on a expliqué? On a expliqué que, on a commencé à expliquer comment une personne peut continuer à être Bessimcha. Parce qu'il comprend à un moment qu'il n'arrivera pas à comprendre. Et même s'il est largué, parce qu'il est clairement largué, il comprend qu'il est passé en mode 2, comme j'expliquais tout à l'heure, de se dire que maintenant, il faut que j'essaye de m'accrocher et faire ce que je peux. Et c'est des gens que Dieu leur donne la force de continuer et de vivre longtemps jusqu'à la fin de leur jour, en dépassant le deuil. Et en dépassant la déprime qu'ils ont en eux. Ce qui est très difficile. Comme vous avez dit tout à l'heure, Abraham, il a dit à juste titre, il a dit, je vous garantis que ces gens-là, quand ils rentrent chez eux, c'est un combat qui est beaucoup plus fort que ce qu'il y a dehors. C'est sûr, c'est évident. Tiens. Mais c'est des gens...
Lis ce que quelqu'un m'a écrit. En plus, c'est un Chabad.
De quoi? Aujourd'hui?
Il a un fils, malheureusement, qui a un retard mental. Regarde ce qu'il me demande sur le texte.
Bon.
Il supporte pas.
réellement.
Et en plus, c'est un rabbin. Il a fait le chapitre 26, évidemment.
Il le révise. Non, mais... bon, on peut pas juger. Très difficile.
Mais évidemment, je ne peux pas demander à quelqu'un de supporter quelque chose.
C'est très difficile.
Il faut au contraire demander à Dieu qu'il guérisse plutôt.
Ah, c'est sûr, non, attends, en parallèle. Non, mais il y a des situations que c'est terminé, c'est mort. Ouais. Voilà, c'est. Quand on peut régler, on peut régler. Les choses, c'est terminé.
Non, parce que j'ai cru comprendre que tu disais que.
Non, je suis pas en train de dire. On prend l'épreuve, on tend l'autre joue. C'est pas chez nous ça.
Et on demande encore. Plus.
Non, j'ai pas dit ça.
Non.
Rachel, on tend pas l'autre joue chez nous. En parallèle du fait qu'on demande à Kadosh Barouh de nous guérir, quand on.
Nous, on veut que la guérison.
Un moment.
On veut que bien vivre. On veut.
On veut tout ça. On demande à Kadosh Barouh tous les jours. Al Tevi, nous l'idée Nisayon. On dit à Kadosh Barouh, nous donne pas devant une épreuve, parce que quand il y a une épreuve, on peut arriver à Bizayon, on peut arriver à la honte. On demande à Kadosh Barouh de nous donner pas aux épreuves. Mais quand l'épreuve est déjà là, et qu'à un moment on comprend qu'elle est là pour rester, c'est-à-dire que voilà, c'est une épreuve maintenant, c'est fini, c'est là. Et bien la force de celui qui va être Bessimra, c'est réussir à mettre de côté le chagrin de l'épreuve pour continuer à avancer. Alors on a amené quelques versets ici. On a amené un premier verset qui a dit que Kadosh Barouh est très proche d'une personne comme ça, et que c'est comme si qu'il l'aveuglait de lumière. D'accord? On a expliqué aussi Yoshev Beseter Elion, que Dieu est assis Beseter en cachette. Ça veut dire quoi en cachette? Ça veut dire qu'il fait des choses des fois que pas tout le monde peut comprendre. On va encore donner quelques versets. Il dit Ve'alken, c'est pour ça. Donc on est à la page 14 en haut. Ve'alken, c'est pour ça. Zoche letzet ha'shemesh bigvurato latid lavo. Celui qui réussit à rester Besimcha, à garder la joie de vivre dans ce monde-ci, malgré une épreuve, cette personne-là, il aura le mérite, les tset hachemesh bigvurato, de voir le soleil sortir en toute puissance, les atid lavo, quand ma chère viendra. Ça veut dire comme ça. Lorsque ma chère viendra, on sera tous en mode yudke. Lorsque ma chère viendra, Dieu va allumer la lumière. Et comme dans l'histoire avec Narmanide, quand Dieu il allume la lumière, tout est clair. La question se pose même plus. Il n'y a même plus besoin de répondre. La question ne démarre même pas. C'est pour ça qu'on dit que quand une personne, il arrive, malgré l'épreuve, à surmonter, à continuer à avancer, et il se dit, je suis persuadé qu'en vérité, Dieu veut mon bien, celui-là, quand Akadosh Barouh va allumer la lumière, Akadosh Barouh va lui dire, toi, tu m'as fait confiance. Toi, tu m'as fait confiance à cette lumière-là, et toi, je donne une dose supplémentaire de lumière. Toi, je vais t'éclairer encore plus que les autres, parce que toi, tu m'as montré que tu m'as fait confiance dans ce que je t'ai envoyé, en vérité, il n'y avait qu'une lumière, mais qu'on était incapable de le recevoir. Shehi, Yetziat Rama Minarteka Sheu Mechusabo Baalamazé. Là, avec ça, on comprend une grande prophétie messianique. Vous savez, une des prophéties messianiques, on dit que lorsque Mashiach va venir, Dieu va faire sortir le soleil de son étui. Les tzadikim vont guérir et les rechaim vont se brûler. Qu'est-ce qui veut dire cette Gemara? Que Dieu, quand Mashiach va venir, il va faire sortir le soleil de son étui, les tzadikim vont être guéris, les rechaim vont être brûlés. D'après ce que le Tanakh explique, on comprend. C'est quoi le soleil? Le soleil, c'est comprendre le chemin d'Akadosh Baruch Hu, comment Dieu illumine le monde. Aujourd'hui, le soleil est dans un étui. Il y a des rayons qui passent, il y a des rayons qui passent pas. Il y a des rayons qui passent, c'est ce qu'on comprend. Il y a des rayons qui passent pas, c'est ce qu'on comprend pas. Lorsque ma chère va venir, Dieu va faire sortir le soleil de son étui. Et du coup, tout va briller.
Il n'y a pas de filtre.
Tout va briller, on va tout comprendre. Et là, les tzadikim, ceux que même lorsqu'ils ne comprenaient pas, ils ont continué à avancer, ils vont être guéris par ça. Pourquoi ils vont être guéris? Parce que ça va être une thérapie. Ils vont dire, regarde, t'as vu, j'y croyais, Baruch HaShem, maintenant Dieu m'a montré que je ne me suis pas trompé. Mais les Rechaim, ceux qui au contraire, ils sont tombés dans le panneau, épreuve ou pas épreuve, ils sont tombés dans le panneau. Quand Dieu va allumer la lumière, il va dire, mais mince, c'est vraiment grave ce que j'ai fait. Juste en voyant les dégâts qu'il a fait, il va se brûler. Dieu, il n'aura même rien besoin de faire. Juste, il allume la lumière, il te montre. Et juste quand tu te montres, le tzadik va dire « Waouh, j'ai bien joué sur ce coup ». Le rachat, il va dire « Mais oh, c'est très grave ce que j'ai fait, c'est plus grave que ce que je croyais ». Dieu, il aura juste allumé la lumière. Voilà pourquoi le roi Salomon, quand il parlait d'une personne qui passe par une épreuve, il dit que celui qui passe par une épreuve, Dieu, il va lui montrer qu'il aime comme le soleil qui sort dans sa puissance. De quoi il parle, le soleil qui sort dans sa puissance? Il parle de la prophétie messianique. Quand le soleil sortira en pleine puissance, quand Dieu nous ouvrira les yeux, quand Dieu permettra à sa lumière d'éclairer le monde pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer ici. Parce qu'aujourd'hui, le soleil est bloqué dans un bouclier. Donc, Minarteka, du bouclier, Sheu Mechusabo Baalamazé, qui est recouvert dans ce monde-ci. Vous savez, c'est écrit, Kishemesh Umagen, Hashem Elohim. Dieu a deux noms, principalement. Hashem, Elohim. Hachem, c'est Yudke Vavke, Adonai. Elohim, c'est Elohim. David Ameler, dans Tehilim, il dit qu'il Shemesh ou Magen Hashem Elohim. Dans le psaume 84, il dit Shemesh ou Magen, le soleil et le bouclier, c'est Hashem Elohim. Hashem, c'est le soleil. Elohim, c'est le bouclier. Elohim, c'est la même valeur numérique que la nature. Hateva. Aujourd'hui, la nature forme un écran devant Dieu, devant la puissance d'Akadosh Baruch Hu. Il y a des choses qui passent, des choses qui ne passent pas. Comme tout à l'heure, ce qu'il a dit Abraham à juste titre, il a dit, il y a des choses qui se passent que naturellement, ça ne passe pas. Parce que nous, on vit en mode Elohim. Nous, on vit dans un monde naturel. Et on réfléchit dans un monde naturel. Donc, en mode Elohim, il y a des choses qui ne passent pas. D'accord? Mais, Shemesh ou Magen, il faut se rappeler que le Shem Elohim n'est qu'un bouclier. Et ce bouclier, il fait son travail. Mais le jour où Hachem, il va enlever le bouclier et qu'on n'aura que le Shem Hachem, qu'est-ce qui va se passer? On va tout comprendre. Pourquoi il ne le fait pas depuis maintenant? Parce que s'il le fait maintenant, on va se brûler. C'est trop fort. C'est quoi la force maintenant de ces gens-là qui passent par une épreuve? C'est que déjà maintenant, à Kadosh Baruch Hu, il leur envoie la force de Havaïe. Il leur envoie la force de Hachem. Sauf que, comme du côté Elohim, on est incapable de le supporter, donc du coup, on ne le supporte pas. Mais en vérité, une épreuve est un bien qui est plus grand qu'un bien habituel. Il faut beaucoup d'émouna pour dire ça. Hein. Vous me suivez ou pas? Il en faut beaucoup, beaucoup.
Ouais. Question, Mandy.
C'est très puissant ce qu'il dit. Ça.
Est-ce que dans chaque génération, est-ce qu'il y a un quota de personnes qui doivent subir un certain nombre d'épreuves?
Non, c'est rien, je ne sais pas. Je sais pas.
Est-ce qu'il
non,
fait
non.
Le compte à
Kadosh
Baruch Hu?
Oui.
Parce que, non, hein. Non, non, c'est pas ça.
Le revenu de combien?
Parce que si ces gens-là, ils récupèrent.
Attendez, tu m'as fini juste la question.
Non, mais il n'y a personne qui paye pour un autre.
Non, vas-y. On ne sait pas, on ne sait pas.
C'est pas comme ça que ça marche.
Non, parce que tu dis que chaque personne a une mission. Et sa mission, c'est de récupérer toutes les étincelles à droite à gauche.
Oui.
D'accord? Une fois qu'on a récupéré l'intégralité. Donc, après, on facilite la vie de ma chère. Est-ce que ces épreuves-là, est-ce que c'est un moyen aussi de récupérer ces étincelles ou pas?
Je ne sais pas.
Certaines manières, oui.
Peut-être oui, certainement, mais prends... Mais, monsieur, regardez, je ne veux pas rentrer dans ce piège.
Non, c'est pas un piège.
C'est un piège.
Non, c'est pas vous.
Je veux pas rentrer dans ce piège de commencer à dire oui, t'as mis dans l'épreuve pour faire sortir. On justifie pas une épreuve. Une épreuve n'a pas de justification possible.
Oui. Je voulais vous demander dans un autre chapitre qu'on
a vu, on avait dit que c'est un bien pour un mal.
Non, j'ai pas.
Il vient des étincelles divines que nous on a rendues négatives.
Sa question.
Donc une épreuve, elle ne vient pas vraiment de Dieu, elle vient de nous, ce qu'on en a fait.
Évidemment, quand il y a une épreuve, ce qu'a dit Abraham tout à l'heure, quand il y a une épreuve, il faut se remettre en question. C'est un appel de phare de Dieu. Mais il y a des fois, c'est tellement gros que ça passe pas.
Oui, on peut pas. C'est l'appel d'électro.
Bon, quand c'est un petit coup du style, bon, t'avais une super affaire que tu croyais faire, elle t'est passée sous le nez, tu dis, bon, ça, j'ai compris. Tu me fais un appel de phare, range-toi, allez, ça suffit. Arrête les bêtises. D'accord, j'ai compris le message, c'est bon, HM. On s'est compris. Bon. Next, hein.
Il y a des appels de phare qui sont beaucoup plus gros. Tout est un appel de phare. C'est marqué que, un exemple, Chas v'Shalom, mais je veux pas. C'est marqué que Ishtosh Adam Metal Avon Nedarim. C'est marqué noir sur blanc. Donc quand t'as ta femme qui Chas v'Shalom, que Dieu nous en préserve, il y a une.
Ma femme est en bonne santé, Borch.
Non, mais elle a 120 ans. Mais voilà, il y a des raisons qui sont notées. Un type qui perd son enfant, il y a une raison aussi qui est marquée. Moi, je veux pas en parler, mais il y a des raisons. La Gemara donne des raisons. C'est logique, on est dans un monde logique.
Elle donne des symptômes. Des symptômes.
Et c'est ça qui nous rend malheureux. C'est qu'on sait que c'est pas de notre, c'est de notre faute.
Je comprends. Mais ça, bon, je comprends. En tout cas, sache. Voilà.
Alors là, si tu prends la réparation.
Dieu n'est que bon. Dieu n'est que bon. Oui, mais là, si t'as envoyé une épreuve qui n'est pas bonne.
Tu peux prendre le. C'est qui prend le mouchoir?
Oui, mais là,
c'est pas que l'épreuve est bonne.
Prends le mouchoir.
Tu vas sombrer forcément.
C'est
bien. Si tu te.
Mouchoir là. Abraham.
On sombre et on doit sombrer puisque tu as dit ça.
Abraham.
Maison de laisser un truc.
Je comprends. Mais sache que c'est pas. Attention, ça va?
Ça va? Ça va? Ça va? Ça va?
Ça
va?
Merci.
Pour la serviette. Ça fait un peu l'épreuve pour une serviette.
Quelle épreuve?
On dit que tu vas sombrer.
Ça va? T'es pas mal?
Ça va?
Allez où la serviette?
Allez. Ok. Alors, Rabotin, on va avancer encore un petit peu. D'accord.
David,
hein, elle parvient la simra, exactement.
De toi, hein.
Alors, dans les mots, en vérité, comment une personne peut être besimra? Parce qu'il est conscient que, en vérité, Akadosh Baruch Hu lui a donné une lumière qui est tellement forte que cette lumière, on est incapable à l'avoir aujourd'hui. Mais quand Mashiach reviendra, on verra comment en vérité cette lumière est très très forte. Alors, on va avancer un petit peu. Donc, il dit, Ouléatid, quand Mashiach reviendra. Donc, je suis à la page 14. D'accord? Ouléatid, deuxième paragraphe. Enfin, fin du premier paragraphe. Ouléatid, lorsque Mashiach viendra. Tid galé mekisouya. Lorsque Mashiach viendra, cette lumière sortira de son étui. Comme on a expliqué. D'ailleurs, comme il explique ici, chez, donc, d'aïnou, ça veut dire, chez az, id galé alma de id kassia. Ça veut dire qu'à ce moment-là, lorsque Mashiach viendra, id galé alma de id kassia, le monde caché va se dévoiler. Veizrach, et il va briller, veyaïr, il va éclairer, beginui rav, veatsum, dans un dévoilement qui est extraordinaire et qui est puissant, les chol achosimbo barolamazé, à tous ceux qui ont été joyeux, et qui ont réussi à rester dans le chemin de la Torah, dans le chemin de la vie, barolamazé dans ce monde-ci, ou mistofefim betsilo, et tous ceux qui ont réussi à rester betsilo dans son ombre. D'accord, tsel achorma qui est l'ombre de la sagesse, shei prinat tsel velo ora vetovanir. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le Zohar et dans la Gemara, très souvent, on compare l'épreuve à l'ombre. C'est quoi l'ombre? Vous avez déjà vu l'ombre? Quand je vois une ombre, d'accord, qui est importante, quand je vois par exemple dans l'ombre, je vois une silhouette qui est importante. Je devine que ça veut dire que derrière ça, il y a quelqu'un qui est très grand. Mais est-ce que je le vois? Non. Qu'est-ce que je vois dans l'ombre finalement? Je vois de l'obscurité. Dans l'ombre, je vois l'obscurité. Mais par l'ombre, qu'est-ce que je sais? C'est du noir l'ombre, on est d'accord? C'est quelque chose qui est couvert. Mais par l'ombre, qu'est-ce que je sais? Je comprends que derrière ça, il y a quelque chose qui est caché. C'est la même chose. Quand une personne passe par une épreuve de nos jours, il voit que l'ombre. Évidemment, quand tu vois que l'ombre, ça déprime. Mais quand elle a la chorma, de comprendre, c'est la chorma, l'ombre de la sagesse. Quant à la chorma, de comprendre que derrière cette ombre se cache en vérité une grande lumière, quelque chose de très très grand, eh ben, automatiquement, tu réussis à garder la joie de vivre. Je dis pas que tu vas être joyeux de ce qui s'est passé. C'est le ridouche. On n'est pas joyeux de ce qui s'est passé, mais on garde la simcha, la joie de vivre. On voit par exemple souvent dans des familles comme ça, dans lesquelles il y a eu une épreuve avec un enfant, Dieu préserve ou quelque chose. Et il y a les deux approches possibles. D'accord? Première approche, c'est de dire, ben, dans ce cas-là, toute la famille sera déprimée. Allez, vas-y, maintenant les autres enfants ils vont déprimer et tout le monde aura une vie ratée maintenant. Et on l'a vu de nos yeux, malheureusement. Et c'est pas de leur faute. Croyez qu'ils vont arriver en haut, ils vont aller au Gehinnom. Ils ont toutes les circonstances que tu veux. Et on a vu des familles dans lesquelles les parents se sont repris et qu'ils ont dit, bon, Hachem, il m'en a enlevé un. Hachem, il a fait souffrir un enfant. Maintenant, il me reste encore ce qui reste. Et ceux-là, il faut qu'ils passent une vie joyeuse. On va tout faire pour les rendre heureux comme on peut. Moi, je donne un exemple. Par exemple, j'ai vu comme ça quelqu'un que je connais très bien, qui a eu un enfant trisomique. C'est une grande épreuve. D'accord? C'est une grande épreuve. Et ils l'ont gardé. Ils savaient qu'il était trisomique, ils l'ont gardé. D'accord? Je parle depuis le ventre de la mère, mais évidemment, parce qu'il faut le garder. Ils l'ont gardé. Et c'est un enfant très difficile. Alors, il y a deux approches. Tes premières approches, tu vas dire, écoute, c'est quoi? Laisse tomber, il est déprimé. Il y a de quoi sombrer dans la déprime. Pourquoi Dieu m'a fait ça? Et qu'est-ce que j'ai fait? Et du coup, toute la famille prend. Et moi, j'ai vu de mes yeux comme ça, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je n'en rappelle le nom, ça sert à rien. Ils habitent en Israël maintenant. Des gens, les parents se sont repris. D'abord, ils ont tout fait pour ne pas enlever la simcha des autres enfants. Et ils se sont repris, ils ont dit, on va prendre l'épreuve et on va donner à cet enfant tout ce qu'on peut. Mais ils sont démenés graves. C'est-à-dire, tu les vois partout, ils n'ont pas de jour, ils n'ont pas de nuit. Parce que c'est des gens qui demandent beaucoup, 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 beaucoup d'attention. On n'a pas idée à quel point. Ah, je l'ai vu de mes yeux juste quelques jours. On n'a pas idée à quel point ça demande de l'attention. Et ils l'ont fait. Et la vérité, c'est des gens, quand tu les vois, tu as beaucoup d'admiration. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont heureux d'avoir un enfant comme ça? Je n'ai pas dit ça. Mais en tout cas, c'est des gens qui ont réussi à retrouver la joie de vivre, malgré ce qui s'est passé. Ils ont compris que Dieu, c'est comme ça, c'est une épreuve, et qu'on va réussir, on va essayer d'être besimra malgré tout ce qui s'est passé. C'est ce qu'il dit ici. Vedaï le mevin. Alors, juste en passant, ce qu'il dit. Il dit Vedaï le mevin, ça veut dire cela suffit pour qui comprend. Alors ça, c'est quand dans Tania on termine comme ça, ça cela suffit pour qui comprend. Ça veut dire que c'est une notion qui est compliquée. Une notion qui est compliquée et que chacun de nous doit essayer, non, c'est pas ça, Rioun, c'est que chacun de nous doit essayer de le comprendre à sa façon. Voilà. Nous, on a donné ici la recette, expliquer comment ça fonctionne. Après, chacun de nous, il doit essayer de le comprendre à sa façon, comme il peut, comme on a dit ici. Mais encore une fois, encore une fois, on parle ici uniquement dans un cas dans lequel il y a une épreuve, que naturellement on peut rien faire pour s'en sortir. L'épreuve, c'est fini, elle est déjà là, il n'y a rien à faire. Mais il est évident que la chassidoute te dit que tant que tu peux réparer ce qui s'est passé, c'est sûr qu'il faut chercher à le réparer. Jusqu'au dernier instant, et même quand les médecins te disent « ça y est, c'est terminé », il faut toujours, jusqu'au dernier espoir, se rattraper, et on a vu des gens qui sont ressortis. Mais quand c'est un cas dans lequel on a terminé, là, dans ce cas-là, on est obligé de se remettre à la Emouna. Vous voyez le paradoxe ? Vraiment, d'un côté, on se dit que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. D'un autre côté, on va se dire que même si tout vient d'Akadosh Baruch Hu, il faut essayer, tant que c'est possible de réparer, de tout faire pour essayer de réparer. Et au contraire, vous savez que on nous dit qu'une personne n'a pas le droit de faire souffrir son corps. Par exemple, une personne qui est malade, il dit, tiens, Dieu m'envoie une épreuve, tiens, je vais rester dans l'épreuve, je kiffe, vas-y, envoie l'épreuve encore. Je ne vais pas aller voir le docteur. D'accord ? Qu'est-ce que vous pensez de ça ?
C'est absurde.
Il faut aller voir le docteur. Pourquoi il faut aller voir le docteur ? Il faut aller voir le docteur parce que faire souffrir son corps, c'est contraire à l'approche du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov te dit, l'approche de la Torah, il te dit, il faut s'occuper de son corps. Il faut s'occuper de son corps, c'est évident. Seulement, quand, dans certains cas, il y a des situations qui arrivent et qu'on comprend que ça y est, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, c'est là, dans un cas comme ça, qu'on te dit qu'il faut comprendre que derrière ça, en vérité, se cache un très grand bien qu'Akadosh Baruch Hu est en train de donner à la personne. D'accord ? Donc, ça c'est...
Le rabbi qui n'allait pas chez le dentiste.
Ah, c'est le rabbi Nachman de Breslau, c'est une approche.
Non, le rabbi, Lubavitch.
Bien sûr qu'il est né.
Pour les couronnes ?
Non, il y a une tradition de ne pas mettre de dentier. Il y a une tradition chez le rabbi de Chabad de rien rajouter sur le corps. Donc il ne mettait pas de dentier. Ça n'a rien à voir. Mais chez le docteur. C'est évident, ça, c'est, il n'y a pas de question. D'accord ? Ok. Donc, avec ça, on conclut pour aujourd'hui. D'accord ? Ce qu'on a conclu, c'est que quand c'est une épreuve des choses de ce monde-ci, il faut se dire que tout vient d'Akadosh Baruch Hu et il faut trouver en soi les forces pour se dire qu'il faut avoir la Emouna, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, et se dire que quand Dieu envoie une épreuve à une personne, il lui envoie également les épreuves pour la surmonter. D'accord. Maintenant, il y a la question d'avenir. Qu'est-ce qui se passe quand... D'abord, est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici ? N'hésitez pas, parce qu'on va passer après votre... Juste ouvrir une parenthèse, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein ?
Ça peut venir de qui ?
De quoi ?
Ça peut venir de qui si c'est pas d'Akadosh ?
Non, c'est pas seulement ça la réponse. Non, c'est pas seulement ça. Dire ça vient de Dieu et Dieu il sait ce qu'il fait, c'est pas ça la réponse qu'on a donnée aujourd'hui. Non. On est parti plus loin que ça. On a dit en vérité, c'est un bien. Et il faut vivre en se disant que c'est un bien. Et c'est pour ça que c'est la seule façon de garder la joie de vivre. Parce que si tu te dis j'ai pris une claque parce que je suis un imbécile, tu seras déprimé toute ta vie. Si tu te dis je suis pas un imbécile et Dieu il m'aime et il m'a montré qu'il m'aime en m'envoyant l'épreuve, même si c'est très difficile, mais c'est la seule façon de récupérer la joie, parce que sinon je peux pas être joyeux. Comment je vais être joyeux? Dieu m'a donné une claque.
Alors d'accord. Alors, ça veut dire ça c'est une façon de récupérer la joie.
C'est pas récupérer.
C'est pas être joyeux, c'est récupérer la joie ou récupérer le moral.
Récupérer la joie en se disant qu'en vérité ce que Dieu m'a envoyé, il m'a envoyé parce qu'il m'aime. Et quand il va allumer la lumière, Bezrat Hashem, il va me montrer que ce qu'il m'a donné maintenant, il l'a donné à personne. Il m'a donné un cadeau qu'il a donné à personne. Ah, je le vois pas. J'ai la Emouna que Dieu m'a donné un cadeau.
Voilà, tout ça est un cadeau.
Non, que c'est un cadeau déjà maintenant, mais que je le vois pas. Non, celle qui est encore plus fort. Ce qu'il m'a donné maintenant, c'est le début de Yudke Vavke. J'ai que le Yudke maintenant. Et quand Dieu va allumer le soleil, il va ouvrir le soleil, je verrai le Vavke. Et je verrai que ce qu'il m'avait donné en vérité, c'était une bracha qui était tellement forte qu'elle m'aveuglait. Mais c'est vrai que maintenant, on ne comprend pas. Ça, c'est clair. Maintenant, on a l'écran de Elohim qui te bloque. On n'y voit rien du tout. Ça, c'est clair. Pas de problème.
Une question. On a posé une question au début, je pense, la semaine dernière. Pourquoi la bracha qu'on fait sur un bien n'est pas la même que celle qu'on fait pour un mal ?
Elle est la même.
C'est pas la même.
Bien sûr.
Tov Vavetti, c'est pas de
bracha. Oui, c'est pas le même mot.
Pourquoi c'est pas les mêmes mots ?
C'est pas la même chose.
Parce qu'il y a un bien, il y a un mal.
Non, pas du tout. Parce qu'une bracha, je dois la faire sur la façon comment moi je perçois la chose.
Et donc j'aperçois. Mais non.
Bah évidemment.
Pas du tout.
Bah mais c'est quoi alors?
Je fais une bracha, je bénis Akadosh Baruch Hu pour ce qu'il m'a envoyé.
Mais je bénis pour ce que moi j'ai compris qu'il m'a envoyé. Quand Dieu m'a envoyé un mal, je peux pas dire merci pour le bien, c'est pas du bien.
C'est du bien, t'es en train de dire c'est
oui,
du
mais je peux pas lui dire merci, je vois pas comme du bien.
J'ai pas compris.
Moi, je pense que c'est pas du bien du tout. C'est ça, la chose qui est envoyée, malheureusement, ça reste quelque chose de mal. La totsa qui va sortir, ça sera peut-être du bien.
Alors,
je peux comprendre dans ce monde ça, ou peut-être pas.
Viens la réponse d'ici. Alors, juste, je voudrais une petite parenthèse. Il arrive parfois, que Dieu envoie des épreuves en tant que punition. Ça, c'est possible aussi.
La plupart des cas.
D'accord ? Non, pas du tout. Non, c'est faux. Il faut savoir, c'est archi faux de parler comme ça. La majorité des épreuves qu'une personne reçoit, c'est pas une punition. Les punitions, en général, Dieu, il est très, 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 très patient avant d'envoyer des punitions. La majorité des épreuves que Hachem, il envoie, c'est pas des punitions. Faut le savoir, ça. Parce que des circonstances atténuantes en exil, après 2000 ans d'exil, on peut en trouver un paquet. Mais ça, c'est une approche à comprendre, ça. Que dans chaque chose qui nous arrive, il faut voir le côté positif de la chose. Comme en vérité, c'est une grande bracha. C'est écrit à propos de l'exil de seconde, c'est écrit à propos de l'exil. Prophète Yeshaya, prophète Isaïe, il dit que lorsque Mashiach viendra, on est dans les 9 jours maintenant, lorsque Mashiach viendra, on dira à Hachem, Odra Adonai ki anaftabi. Je te remercie Dieu de m'avoir fait souffrir. Je te remercie. Remercie Dieu de m'avoir fait souffrir. Aujourd'hui, on ne dit pas merci. Enfin, on n'est pas arrivé à ce niveau-là encore. Ça veut dire que lorsque Mashiach viendra et que Dieu va allumer la lumière, on comprendra comment en vérité, ce qu'on croyait être un mal, c'était un bien. Des fois, c'est des punitions, mais la majorité des cas, ce n'est pas une punition. C'est une épreuve. C'est pour ça qu'on appelle ça une épreuve, pas une punition. C'est un nisayon. Un nisayon. On supplie à Kadosh Baruch Hu de ne pas passer par là, parce que malheureusement, on peut y laisser des plumes. Mais en tout cas, il faut savoir, quand c'est une épreuve, ce n'est pas forcément une punition. Au contraire, à Kadosh Baruch Hu, il nous montre qu'il nous aime et il nous aide à développer des forces extraordinaires. Je ne dis pas que c'est pour ça qu'il l'a fait, mais c'est, quand Mashiach viendra, on verra que l'épreuve qu'il nous a envoyée, c'était en vérité un grand bien.
Est-ce que dans la Torah, on parle de punition, d'épreuves qui ne sont pas des punitions?
Évidemment.
Dans toute la Torah?
Bien sûr.
Toutes les... Vas-y.
Mais plein d'endroits.
Moi, j'en vois pas.
La Gemara, elle parle souvent de ça.
Oui. Tu prends les 5 livres de Chumash qu'on a à la Torah. Où est-ce que c'est marqué que Kadosh Baruch Hu envoie des Isurim chez l'Ahava? C'est pas marqué dans la Torah.
Ok, bon.
C'est marqué dans la Torah.
D'accord. La Torah parle pas de ça. La Torah parle des cas où une personne a fauté, on va le punir.
On n'a pas réussi, au fait, à comprendre que les Isurim de punition. Et donc, on a inventé, en fait.
Non,
je pousse un
peu. Non, Chazéchal, non.
Moi, je pousse un peu comme ça, mais je pense pas.
Non, Chazéchal, j'essaie
de pousser pour essayer de comprendre. Chazéchal, je comprends pas.
Chazéchal.
On a inventé.
Arrête-toi là.
Chazéchal.
Dieu, il sait ce qu'il fait. C'est la vérité. Non, mais c'est important ce que je viens de dire.
Attends,
prenez par exemple ce qui s'est passé. Prenez par exemple ce qui s'est passé pendant la Shoah.
Il a vécu 175 ans.
D'accord.
Sa femme, elle est morte à 120 ans.
Oui, mais il a eu des épreuves, il a eu des grandes épreuves. Non, il a eu des épreuves. C'est vrai que c'est énorme ce qu'il a eu.
Tu regardes, en fait.
Prenez. Mais d'accord, mais quand il les a vécues, il a eu des épreuves.
Abraham,
on va s'arrêter là. Juste, prenez. Non, parce que c'est pas des. Je donne un exemple. Prenez par exemple la Shoah. D'accord. Celui qui veut commencer à vouloir expliquer, de dire ça s'est passé parce que, le parce que est déjà une erreur. Et pas parce que.
Mais avant la Shoah,
il dit oui, mais tu comprends, c'est écrit dans la Torah, les punitions. C'est pas une la Shoah n'est pas une punition.
C'est pas l'approche de la chassidoute.
Il faut être fou pour parler comme ça. La Shoah n'est pas une punition.
Toi, t'es embrigadé, d'accord. Fanatiste.
La Shoah n'est pas une punition. Quand Mashiach viendra, Dieu nous expliquera comment en vérité la Shoah était une bracha. Maintenant, je suis incapable de comprendre. Et pour moi, c'est le contraire. Jusqu'aujourd'hui, je le pense. Et je pense qu'autour de la table, celui qui n'est pas d'accord avec moi, il est ma boule. D'accord? Non, mais c'est la vérité. Mais, lorsque ma chère viendra, on comprendra qu'en vérité, c'était un yudke qui nous manquait le vavke. C'était en vérité grandement. Mais ça, pour l'instant, on est incapable de comprendre. Mais c'est pas grave! Quand au moins je sais que je suis incapable de comprendre, mais qu'un jour Dieu me montrera comment c'est une bracha, ça me rassure.
Je comprends pas.
D'accord? Mais n'allez pas comprendre.
Yirmiya, qu'est-ce qu'il a fait Yirmiya toute sa vie? Les Jérémiades, c'est quoi? Il a averti le peuple juif, attention, repentez-vous. Le Rafet Sraïm en 33, il a fait la même chose, repentez-vous. Vous arrivez ça et ça et ça. Finalement, les choses sont arrivées. Ouais. Après coup, qu'est-ce qu'on se dit? C'est la bracha. C'est la bracha. Ça sert à rien.
Il n'y a rien qui peut justifier 6 millions de personnes qui sont mortes.
On sait pas. La force des Averot. On connaît pas. Si ça se trouve, si.
Il est méchant, ton Dieu, hein. Pas le mien, il est gentil.
Voilà. Moi, je sais pas. Moi, j'essaie de.
Il est très gentil, mon Dieu. C'est mon Dieu, c'est comme un père miséricordieux.
Ouais, je te dis franchement, moi, j'ai.
On a le Dieu qu'on veut.
Moi, je viens au cours de Tania pour ça. Parce que moi, j'ai été éduqué dans le contraire de ça. Moi, on m'a toujours dit, si t'as fait une faute, c'est parce que t'as fait une faute. Ouais, c'est comme ça. Au début, je suis prouvé.
Ah, du style. Dieu, il t'attend avec un sniper, tu vois. Hop,
exactement.
Pire
que ça.
Pire que ça. Dès qu'il voit que tu vas un peu fauter, pas qu'il vise à côté pour que tu dis attention, voilà, ça a tombé dessus.
Comment ça se fait que t'as fait ça et Dieu t'a pas déjà envoyé quelque chose?
Mais pas du tout, Hasbe Shalom.
Ouais, voilà. Moi, j'ai entendu.
Hachem n'est pas un sniper. Hachem n'est pas un sniper. Il envoie des appels de phare.
Je suis là pour comprendre.
Il envoie des appels de phare. Mais des fois, comme on a expliqué, c'est tellement gros qu'on peut pas expliquer. Et il faut se dire que derrière, et ça personne ne te dit le contraire, que derrière une épreuve, il y a un grand recette d'Akadosh Baruch Hu qui est tellement fort qu'on ne voit pas. Je voudrais juste m'arrêter sur ça. Bezrat Hachem. Ce qu'on fera la semaine prochaine sera le dernier cours avec ça. Je pense qu'on terminera le chapitre 26. D'accord? Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et Amen, qu'on n'ait plus d'épreuves exactement. La semaine prochaine, on expliquera qu'est-ce qui se passe maintenant lorsque c'est des épreuves qu'on connaît un peu mieux. Et ça, c'est des épreuves qu'on, avec ça que nos épreuves. Lorsque c'est des épreuves de choses spirituelles. Par exemple, une personne, il essaye de pas être attiré par certaines choses et il est quand même attiré. Il essaie de pas faire certaines avérotes et il les fait quand même. Il n'arrive pas à s'en débarrasser. Et à un moment, il tombe dans la déprime. Quelle déprime? La déprime des avérotes. Ça, on va expliquer la semaine prochaine dans quel cas c'est bon, dans quel cas c'est pas bon. Ça, c'est déjà quelque chose de plus, d'accord? Ça, c'est déjà quelque chose qu'on va expliquer. Là, par contre, on va expliquer qu'il y a des messages d'Akadosh Baruch Hu. Il y a des messages, il y a des façons, quand écouter, quand ne pas écouter. Ça, on va développer. Le cours de la semaine prochaine va être exclusivement sur ça. Donc, les épreuves spirituelles. Mais là, aujourd'hui, on a parlé des épreuves matérielles qu'on ne peut pas comprendre, mais qu'on doit être persuadé que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et les gens qui arrivent à être persuadés que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, comme on l'a vu de nos yeux, c'est des gens qui arrivent à retrouver en eux une force extraordinaire qu'une personne normale n'a pas. Une personne normale n'a pas. Dieu leur a donné le Yudke. Nous, on n'a que Elohim. À eux, il leur a donné le Yudke. Ils n'ont pas encore le Vavke. Lorsque Machiav viendra, ces gens-là, c'est les grands Sadegim. Ils sont plus forts que les grands Sadegim. Parce que Dieu leur a donné quelque chose qu'il n'a donné à personne d'autre. Voilà. On va s'arrêter là. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Il y a des questions? Bon. À méditer. De toute façon, on n'a pas fini le chapitre. On finit la semaine prochaine. S'il y a des questions, réfléchissez.